not easy. Banging your heart against some mad bugger's wall. L'écran radiophonique, Radio Canut vous présente un scénario original de Julien Jean-Pierre, Le temps arrêté ou les destins figés. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement, CVRP. Chaque matin, Charles de Star se lève à 4 heures. Pour ne pas déranger sa femme, il a sa propre chambre. Une fois qu'il s'est levé, il met sa robe de chambre et va à son bureau qui est contigu à sa chambre. Il va s'asseoir à son bureau. Éclaire et ouvre une chemise où est écrit dessus « Tension ». Tension est le nom d'un scénario de film qu'il a écrit. Charles de Star est producteur cinématographique et de temps en temps, il aime bien faire lui-même un film, malgré que cela lui donne un supplément de travail. Mais ça le détend, il change, car c'est très long à produire un film et l'on est sur les nerfs. L'on ne sait pas où l'on va aboutir et si on va aboutir à quelque chose. Tandis que produire et mettre en scène un film, ce n'est pas la même chose. L'on connaît les exigences des deux métiers et l'on sait ce que l'on doit faire. Les jeunes metteurs en scène, maintenant, veulent juste les producteurs pour qu'ils payent les factures. Il n'accepte aucune obligation. Charles de Star n'est pas très exigeant. Une fois que le scénario est accepté, il les laisse entièrement libres. Sauf pour le choix des acteurs, les costumes. Et il leur demande de faire une œuvre personnelle. Il leur dit toujours, c'est peut-être la seule fois que vous avez le privilège de faire un film sans contrainte. Alors, profitez-en. Malgré tout, beaucoup ne sont pas satisfaits. Ils aimeraient imposer des acteurs. Charles de Star est très strict là-dessus. Il veut des acteurs qui soient de vrais acteurs, qui aient une certaine tenue. Il veut que des scénarios soient des œuvres personnelles. En plus de son film, il a en ce moment 3 films à produire. Comme il aime le travail bien fait, il est obligé de tout s'occuper lui-même, ce qui lui donne beaucoup de travail et de temps. À 7h30, il sort de son bureau pour aller dans la salle de bain. Il y va avant que sa femme ne se lève. Arrivé dans la salle de bain, il se déshabille. Il se met devant le lavabo pour se raser. D'habitude, il ne se regarde pas, mais cette fois, c'est le jour de son anniversaire. 18 février, et j'ai 45 ans. Il soupire et se regarde. Il est grand, maigre, le visage osseux, yeux bleus profonds, bouche sensuelle, cheveux bruns. Avant de se passer le blaireau plein de savon, il voit que son visage a quelques rides d'expression. On n'a plus 20 ans. Et je fais plus vieux que mon âge. Ce qu'il y a de bien avec les personnes qui, comme moi, n'ont jamais été belles, c'est qu'elles changent moins vite que les autres. C'est une consolation. Demi-heure plus tard, il sort de la salle de bain en pyjama beige avec des initiales marron dessus. Il se sent mieux. Il est tout chaud de la vapeur et de l'eau de Cologne. Il retourne dans sa chambre. En passant devant la chambre de sa femme qui est à côté de la sienne, la porte s'ouvre. Sa femme, Marie-Laure. Elle est grande, mince, cheveux bruns, longs qui ondulent. Elle a 40 ans, mais elle en paraît 10 de moins. Elle est habillée d'un peignoir, un satin blanc. Il s'approche d'elle. Il embrasse sur le front.
Bonjour. Bonjour, Charles. Tu pars à quelle heure?
Dans une demi-heure.
Je vais faire préparer le petit déjeuner.
Une demi-heure plus tard, toute la famille est réunie pour le petit déjeuner. En plus des parents, il y a Germain, le fils aîné, 20 ans. Il ressemble à sa mère, poursuit des études de psychologie, mais ne sait pas ce qu'il veut faire plus tard. Pour le moment, ça lui est complètement égal. Il porte un pull et un pantalon noir. Claude, le deuxième, 19 ans, est plus petit et est blond. Il veut être médecin, est habillé comme son frère, qu'il aimerait imiter. Aline, la troisième enfant, petite et cervelée de 17 ans. Elle est blonde, grande et mince, porte une jupe noire et un pull vert. Germain dit « Père, j'aimerais te parler.
Je t'écoute.
Après le petit déjeuner, j'ai pas beaucoup de temps, tu sais. »
« Fais-tu aujourd'hui, Charles ?»
demande la mère. « Il faut que j'aille voir ce jeune metteur en scène, Philippe Géret. Son travail traîne, il n'a pas encore commencé à tourner. Ça fait 15 jours qu'il aurait dû partir en Israël pour tourner son film. J'ai l'impression, c'est qu'il a des difficultés à organiser son travail. Et puis, il y a une chose, c'est que j'ai peur qu'il me fasse un film à la Godard. Ensuite, j'aimerais faire des repérages pour mon film Tension avec Jacques. » Après le petit déjeuner, Charles et Germain se trouvent dans le bureau du père. Charles remplit sa serviette de dossiers. Mon fils reste debout devant le bureau, les mains dans le dos.
Je t'écoute.
J'aimerais 400 francs. Père s'arrête de ranger ses affaires et regarde son fils.
400 francs ? Et pourquoi faire ? Tu as eu ton mois ?
Le fils soupire. C'est de l'argent que je dois.
Tu as fait des dettes ? Ça, c'est un comble, alors. Et avec qui ?
C'est pour la radio.
Quelle radio ?
Radio Canu, j'ai fait... Depuis quelques mois, je fais une émission de rock là-bas. C'est des copains qui sont dans ma classe. Ils font une émission le dimanche soir. C'est les dimanches de l'information. Alors, j'ai voulu faire comme eux. Mais je n'ai pas d'argent pour payer mes cotises.
Pourquoi ? Tu payes pour faire de la radio ?
Il faut bien qu'elle vive, elle ne fait pas de pub. Père soupire.
Tu veux combien ?
400. Prends de la poche de sa veste son chèque, fais le chèque et le lui tend.
L'impression d'être dans cette maison une machine à faire des chèques. Je ne suis là que pour ça. Personne ne vient me raconter ce qu'il fait, à moins qu'il en soit obligé. Allez, n'en reste pas planté comme cela. Tu peux partir, maintenant que tu as ce que tu veux. Terminez ma mallette et je pars.
Charles de Star est sorti de son immeuble. Trouve boulevard des Beiges. Il monte dans sa BMW. Il dirige vers le premier arrondissement, au-dessus de la place Satonnet, rue de l'Annonciade. Devant un immeuble minable, qu'il arrête sa voiture. Il sort et entre dans l'allée. Elle est sombre, noire, sans les poubelles et pipi de chat. Il regarde aux boîtes aux lettres.
Ah, voilà, Philippe Géret, 5e étage. Pas d'ascenseur. Ah, c'est jeune.
Il monte jusqu'au 5e. Il va frapper à la porte de l'appartement. La porte s'ouvre. C'est un jeune homme de 23 ans, grand, mince, cheveux coupés ras et dégarnis sur le devant, le visage maigre, pâle. Il est habillé d'un pull et d'un pantalon noir. Il est surpris de voir Charles.
Entrez, je vous en prie.
Charles entre. Il ferme la porte. Il se trouve dans un petit hall sombre. Philippe ouvre la porte qui se trouve en face de la porte d'entrée. Et fait entrer Charles. C'est une grande pièce avec un lit en fer à une place défait. Une table au milieu de la pièce et quatre chaises autour. Un placard, une armoire en bois 1930. À terre, contre le mur, des piles de livres et de linge sale. Philippe le fait asseoir. À la table, une boîte à sucre déchirée. Tout ce qu'il faut pour prendre son petit déjeuner en vrac au milieu des miettes. Vous voulez un café ?
Non, merci.
Philippe s'assoit à côté de lui.
Je suis venu aux nouvelles. Cela fait 15 jours que vous auriez dû partir.
Oui, je sais, mais j'ai un de mes amis qui devait partir avec moi. Il a eu un contretemps. Et puis j'aimerais reprendre le scénario.
Vous savez que ce contretemps coûte très cher à la production. C'est votre premier film. Vous commencez mal. Il faut que vous commenciez le tournage le plus rapidement possible.
J'ai le scénario à revoir.
Laissez ce scénario comme il est très bien. Si dans 8 jours le film n'est pas commencé, je serai dans l'obligation de rompre notre contrat.
Sa voiture, Charles se dit.
J'étais un peu dur avec ce jeune, mais c'est pour son bien. Autrement, il ne fera jamais son film. C'est le genre de personne qu'il faut pousser, secouer.
Et il met sa voiture en route. Matinée avec Jacques, un jeune caméraman, ils ont parcouru la ville pour faire des repérages pour son film. À 13h, il a mangé dans sa voiture et bu un jus de fruits. Puis il est allé à différentes banques pour demander des prêts. À 19h30, au Sofitel, il a présidé un lunch pour présenter un jeune metteur en scène et des comédiens à la presse, donc pour un film dont le tournage commencera très prochainement. Il entre chez lui, il est 21h, épuisé. Un appartement, c'est 2 appartements réunis, 4 pièces et 5 pièces. Les pièces sont grandes, claires. Les tables sont modernes de grand prix, avec une ligne très pure. C'est le domestique qui l'a reçu. Il retrouve sa femme au salon, assis dans un fauteuil. En le voyant entrer dans la pièce, elle ferme Télérama. S'approche d'elle, s'assoit en face d'elle.
Veux boire quelque chose?
Non, merci. Je suis fatigué.
Charles, j'ai vu en solde un magnifique manteau de fourrure.
Il lève les bras et les rabat sur les accoudoirs. Oh, encore!
Quoi encore?
Vous êtes toujours à me demander de l'argent.
C'est normal, puisque c'est toi qui as l'argent de la famille.
Oui, mais j'aimerais bien qu'on ait d'autres sujets de conversation.
Quoi?
Tiens, je vais me coucher.
Et il se lève.
Ah, tu vois, et comment veux-tu qu'on en ait des sujets de conversation avec une personne qui, aussitôt arrivée, va se coucher?
J'y peux rien, je suis fatigué. Je travaille, moi. Je passe mon temps à travailler, à rendre service. J'aide les jeunes artistes à pouvoir s'exprimer, et ce n'est pas facile du tout. J'aide ma famille à vivre. Et moi, qui m'aide? J'ai 45 ans, qui s'occupe de moi? J'ai vécu que pour les autres. Ça m'a apporté quoi? J'aimerais pouvoir souffler, respirer un peu et que l'on s'occupe un peu de moi. » Et il sort de la pièce en claquant la porte. Trailer sursaute et dit « Ça lui passera !» Avant de s'endormir dans son lit, Charles se dit « Tout ce que j'aime devient une corvée pour moi parce que ça me donne trop de travail et qu'il faut que j'y fasse vite. Une chose commencée doit être finie. Pourquoi ? Pourquoi cette course contre la montre ? Et puis, j'ai toujours l'impression de perdre mon temps. Lorsque je fais quelque chose, je me dis que je pourrais faire autre chose. C'est pas une vie que je mène là. Non. Je n'ai aucun plaisir. Tout se transforme en corvée. Même le cinéma. Je n'aurais jamais cru ça du cinéma. Ce temps, dans la chambre de Germain, les deux frères parlent. Germain est au lit et Claude assis sur une chaise à côté du lit. Germain dit « Je vais partir en Angleterre. » « Quoi ?»« Oui, avec Sweetie et Didier. Tu en as de la chance et tes études. » Elles attendront. Dans la vie, ce qui compte, c'est faire ce que l'on a envie de faire. « Moi aussi, j'aimerais bien être comme toi. Fais-le, toi aussi. Et père, il sera bien obligé d'accepter. » Le lendemain matin, en se réveillant, le père a le cafard. Il n'a pas envie de se réveiller.
« C'est la première fois que ça m'arrive. » D'habitude, je me lève d'un coup. Mais là, ça ne me dit rien du tout. Ça doit être la fatigue.
Chez lui, sa femme lui dit
« Ta fille aimerait te parler. »
« Ah, oh, je suis crevé. Dis-lui de venir dans mon bureau. » Père est à son bureau et vide sa serviette de ses chemises. Est devant le bureau.
Je t'écoute, ma petite.
Voilà, père, j'ai fait la connaissance d'un garçon charmant et nous nous aimons, nous aimerions vivre ensemble. Es-tu d'accord? Qu'en penses-tu? Le père la regarde.
Quoi? Qui est-ce?
Tu ne le connais pas, il est dans ma classe et à mon âge.
Il est mineur, donc?
Oui, mais nous nous aimons.
Écoute, ma fille, tu m'as demandé mon avis. Je t'en remercie. Le voici. Tu aimes un garçon, mais tu es très jeune et lui aussi. Vous avez bien le temps de vous mettre ensemble. Je ne peux pas te donner la permission.
Elle hausse ses épaules et fait les 100 pas. Tu vois comme tu es. Tu dis que l'on ne te dit rien. Et lorsqu'on te dit quelque chose, ça ne te va pas. J'aurais dû ne rien te dire. De toute façon, j'ai décidé de le faire.
Alors, pourquoi m'avoir demandé mon avis?
Ça
s'arrête de marcher, baisse la tête.
Parce que j'aurais aimé que tu m'aides financièrement, mais je m'en passerai.
Le père furieux, c'est pour cela que tu me demandais mon avis? Pour une histoire d'argent? Va dans ta chambre.
Elle se dirige vers la sortie.
Avant d'ouvrir la porte, elle se retourne. Il lui dit, tu n'es qu'un sale égoïste, je partirai malgré tout.
Et elle sort.
Deux semaines plus tard, Claude, avec des copains, en volait une voiture et l'a percuté contre un mur. C'est lui qui conduisait. La police lui a trouvé un taux élevé d'alcool. Le père était prévenu, le fils est en prison à Saint-Paul. Charles a pu voir son fils dans un parloir minable.
Pourquoi tu fais cela?
Le fils hausse les épaules.
Bien, on avait trop bu.
Tu as de la chance d'être encore en vie.
Deux jours plus tard, il apprend que son fils, Germain, est parti pour l'Angleterre.
Tant mieux, il ne donnera plus de mauvais exemple.
Charles a de plus en plus de peine à se lever le matin.
J'ai plus envie de le faire, rien faire. J'agis comme un automate.
Le travail n'y pense pas, ça piétine et ça l'énerve. Le soir, il apprend que sa fille est partie.
Pourquoi l'as-tu laissée partir?
Je ne pouvais pas la garder de force.
Elle est mineure, je vais la faire ramener par la police.
Non, surtout pas, ce sera un déshonneur pour nous. Elle a quelle honte. De toute façon, si elle veut nous quitter, elle se sauvera.
Un jour, sa femme reçoit un appel téléphonique. Sa mère qui lui demande de venir, car elle a une mauvaise grippe. Elle décide d'y aller samedi soir. Une fois que sa femme est partie, Charles se trouve seul dans l'appartement. Le lendemain matin, il n'a pas envie de se lever. Comme il est seul, il décide de rester au lit toute la journée. Lorsque sa femme revient le soir, elle le retrouve au lit.
Tu es malade ?
Non.
Pourquoi es-tu au lit ?
Parce que je n'avais pas envie de me lever.
Le lendemain matin, il a un tel cafard qu'il décide de rester au lit. Au moment où sa décision est prise, le cafard a disparu et il se sent mieux. Ce qui lui donnait le cafard, c'est que son esprit refusait d'admettre, par honte, qu'il ne voulait pas travailler. Mais une fois qu'il a pu dépasser sa honte et faire ce qu'il souhaitait vraiment, c'est-à-dire ne rien faire, son cerveau s'est senti soulagé et dégagé. Sa femme voit qu'il est encore au lit et lui demande s'il veut un médecin.
Non, pas la peine. Je suis très bien. Je ne suis pas malade.
Au bout d'une semaine, il est encore couché. Sa femme, malgré lui, appelle un médecin. Il l'ausculte et après, il dit à sa femme :
il n'a rien d'anormal. Peut-être un peu de fatigue. Qu'il se repose s'il le veut.
Malheureusement, au bout d'une semaine, le cerveau se met à travailler et à avoir du remords. Toute son éducation, sa morale revient à la surface. Rester au lit, se reposer, sans être malade, ce n'est pas digne d'un honnête homme. Il est coupable de paresse. Voilà qu'après l'angoisse, le remords. Est au pied de son lit.
Je ne suis pas un homme bien. Si je ne travaille pas, c'est que je suis un feignant. Je ne suis pas malade. Je suis un mauvais homme.
Mais non, tu es simplement fatigué. Après un bon repos, tu iras mieux.
Malheureusement, les jours passent et ça ne change pas. Le médecin dit qu'il fait une grosse dépression nerveuse et qu'il faut l'hospitaliser dans une maison spécialisée. Sa femme refuse.
Et tout aussi bien à la maison. C'est à vos risques et périls, madame.
Une nuit, il se réveille seul dans sa chambre. Il se lève difficilement. S'habille. Il sort de la pièce. De l'appartement. Dehors, il fait nuit. Personne. Il doit être très tard ou très tôt. Il va droit devant lui. La nuit l'enveloppe. Trois jours plus tard, l'on a retrouvé son corps au canal de Jonas. Vit seule. Son fils Claude est sorti de prison, mais il a décidé de vivre avec un copain. Philippe Géret n'a pas encore commencé son film. Charles de Star a figé les destinées. Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, Temps arrêté ou les destinées figées. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.